Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Le libraire. Au programme, la suite de Promenade dans une cité de mots. Élise A. Héroux, La vie devant soi. Et, entre parenthèses, quelques incontournables en littérature étrangère. Bonne écoute.
Dans la poche. Des propositions de lecture d'Alexandra Mignot et José-Anne Paradis, parues le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. À chaque édition de la revue Les Libraires, nous vous proposons une sélection de livres qui se glissent facilement dans votre poche. Petit prix et petit format, certes, mais de grandes découvertes et de belles plumes. L'infini dans un roseau, l'invention des livres dans l'Antiquité. Irène Vallejo, le livre de poche. L'humanité serait disposée à être enivrée, transportée, épatée par les histoires. Voilà ce qu'avance la philologue espagnole Irène Vallejo dans cette mosaïque d'épisodes historiques narrée avec le talent d'une conteuse inégalée qui s'écarte de la chronologie pour laisser se déployer le fil rouge de son récit. Elle nous entraîne de l'Antiquité à la mégalomanie de Marc-Antoine qui a offert à Cléopâtre, pour conquérir son cœur, plus de 200 000 rouleaux de papyrus. Puis, dans des histoires de censure, saugrenues ou non. Dans celle des premiers alphabets. Aussi, dans l'élaboration des bibliothèques, où on lisait jadis à voix haute, l'inverse étant louche, dans l'évolution des idées, dans l'histoire de la lecture, en tant que telle, et dans ce qu'elle peut changer chez les individus. Étayée d'anecdotes personnelles, tout à fait à propos, et finement relaté, ce livre sur les livres est d'une immense richesse. Paris-Briançon, Philippe Besson, Pocket. Le romanesque huis clos que propose l'auteur, rompu au développement psychologique et à la mise en mots des sentiments, se déroule dans un train, entre la gare de Paris, où montent des personnages, de tous âges et de tous milieux, et la ville de Briançon, petite commune à flanc de montagne. Il offre ainsi des instants suspendus, volés au quotidien des 10 personnages auxquels il s'attarde, le temps d'un trajet de nuit serpentant entre les paysages naturels, sinueux et vallonnés. Avec ce roman choral, qui fait les bonnes grâces au hasard de la vie, Besson s'écarte de sa bibliographie et amorce un tournant vers un roman à suspense, bien que tout à fait à sa place en étant classé dans la littérature blanche. C'est que, dès la seconde page, il annonce à ses lecteurs que parmi les passagers, certains seront morts au lever du jour. L'incendiaire de Sudbury. Chloé la Duchesse, Héliotrope. Après avoir fui une relation toxique à Montréal, Emmanuelle se retrouve à Sudbury, où, en plus de se terrer, elle accumule les plans foireux et les lendemains de veille entre deux contrats de design web. Lorsqu'elle réalise que son ex-amant, César, qui avait subitement cessé de la voir 8 mois plus tôt, et dont l'agenda vient de ressurgir, est peut-être disparue, elle entreprend d'éclaircir cette histoire. Pendant ses recherches, elle fait des découvertes surprenantes en lien avec une étude clinique de la femme de César. D'autres disparitions pourraient-elles être liées à cette affaire? Auréolée d'une atmosphère mystérieuse, ce roman noir met en scène une faune bigarrée, des marginaux, des laissés pour compte et des magouilleurs. Même si Manu est plutôt un petit poisson parmi les gros, elle n'est pas non plus blanche comme neige. Ligne brisée. Caterina Vermette, Québec-Amérique. Gagnant du combat des livres en 2018, ce livre puissant et malheureusement criant d'actualité dépeint l'injustice, le racisme systémique et la violence faites aux femmes autochtones, mais illustre également la résilience, la solidarité et la force de celles-ci. Ligne brisée raconte l'histoire d'une jeune métisse âgée de 13 ans, victime d'une violente agression. Ce drame horrible entraînera des répercussions dans toute la communauté du quartier North End de Winnipeg, allant de sa famille à ses amis, qui se relaient à son chevet, en passant par les policiers chargés de l'enquête. Dans ce roman polyphonique, les voix des femmes résonnent, s'élèvent, se font écho et se révoltent ensemble. Aller aux fraises. Éric Plamondon, Le Cartanier. Avec une délicate nostalgie, Éric Plamondon s'attarde sur les années phares où l'adolescence laisse place à une certaine maturité, cette période dont on ignore l'aspect éphémère au moment où on la vit, si excitée de goûter à la liberté. Il nous entraîne dans sa ruralité, entre Donnacona et Thetford Mines, nous ramène à sa première blonde, à son bal, à ses soirées beaucoup trop arrosées. Dans la seconde nouvelle des trois qui composent ce livre, on se promène sur des routes gelées où des cendres doivent être déposées. On découvre sa relation au père, un homme au calme légendaire pour mieux masquer la dangerosité de ses colères, un homme amoureux des anecdotes échevelées. On parcourt les routes, les champs, aux côtés de cet écrivain habile qui cache bien souvent, entre deux phrases pourtant si simples en apparence, tout le sel d'une vie. Vous écoutez « Dans la poche », des propositions de lecture d'Alexandra Mignot et José-Anne Paradis, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Solac, Caroline Hinault, Le livre de poche. Dans ce premier roman dont l'écriture, tendue comme un arc et au vocabulaire qui frappe, est épatante, on plonge dans le froid d'une presqu'île au nord du cercle polaire, où deux militaires et un scientifique cohabitent tant bien que mal. Lorsqu'arrive dans leur petit cercle un jeune soldat, qu'ils nomment Gamin, on sent que son mutisme et la vodka ravitaillée au même moment accentuent la tension palpable. La nuit polaire qui s'abat et semble éternelle contribue également à ce que ce huis clos glaçant dévoile une violence latente. Pour gagner, il ne faut pas vaincre la violence, mais l'aimer. Tous traînent leurs démons, leurs secrets. Et si certains remontent à bien loin, la marmite est prête à exploser sur cette blanche banquise qui ne saurait tarder à recevoir les éclaboussures de leurs noires pensées. Ce roman a été lauréat du prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais, du prix Michel Lebrun et du prix Découverte Claude Mesplède. L'homme qui marchait sur la lune. Howard McCord, alto. L'auteur a été comparé à Jim Harrison et à Cormac McCarthy pour la façon dont il dépeint, dans une mécanique noire implacable, l'ambiance pesante du quotidien d'un homme qui arpente, depuis 5 ans, les arides contrées d'une montagne de nulle part, dite la Lune, située au Nevada, bien loin de toute présence humaine et de ce qui pourrait le ramener à la sauvagerie qui habite son cœur. Le suivent ses pensées et souvenirs, réels ou falsifiés, d'un passé obscur. Mais le suit aussi cet autre qui le poursuit. Avec une tension narrative constante, son cynisme à peine voilé et cette étrangeté manifeste, ce roman, comme nul autre pareil, a de quoi surprendre. En route vers Nowhere. Sophie Lorrain, Urtubise. À l'été 2007, Sarah et Sébastien partent de Montréal pour un road trip sans destination précise avec le nouveau vieux char de Sébastien, un station wagon vert baptisé Lucette. Pendant qu'ils roulent où le vent les mènera, dorment ici et là et se nourrissent mal, Sarah se remémore des souvenirs. Leur rencontre à 10 ans dans un camping, leur retrouvaille quelques années plus tard au secondaire, les ambiguïtés et les rendez-vous manqués de leur histoire. Ce périple d'errance pourrait-il être l'occasion de voir autrement leur amitié? En route vers Nowhere, nous plonge dans la nostalgie tout en explorant les liens amoureux et amicaux et les hésitations, parfois entre les deux, à l'aube de la vingtaine, cette période enivrante remplie de promesses, mais aussi celle où on cherche son chemin. La trajectoire des confettis. Marie-Ève Thuot, Les Herbes Rouges. Qu'arrive-t-il lorsqu'on laisse éclater les normes sociales? Lauréate du prix des libraires 2020, Marie-Ève Thuot a été en lice également pour les prix français qui sont le Flore, le prix du meilleur roman, point, et le Médicis, avec ce roman choral qui interroge la forme bigarrée des relations amoureuses et sexuelles. Multipliant les personnages, barman qui fait vœu de chasteté, adolescent amoureux de sa tante, pasteur au goût littéraire hors normes, etc., les époques et, incidemment, les points de vue. Ce roman à l'architecture époustouflante a ceci de particulier qu'il sait instiguer un suspense certain dans une immense fresque pleine de mystères dévoilés petit à petit. On y aborde avec une adresse flamboyante cette fine limite entre le tabou et l'envie, entre la norme et l'inhabituel. La plus secrète mémoire des hommes. Mohamed Mbougar Sarr, Le livre de poche. Avec ce livre, véritable hommage aux nécessités de vivre et d'écrire, l'écrivain sénégalais a remporté le Goncourt et le prix Transfuge. Les critiques avaient déjà salué son audace, l'intransigeance de sa langue ainsi que son inventivité. Sa nomination à plus de 10 prix prestigieux confirme d'ailleurs son talent. La plus secrète mémoire des hommes raconte l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais installé à Paris qui est fasciné par un livre intitulé « Le labyrinthe de l'inhumain » paru en 1938 et dont l'auteur s'est volatilisé à la suite de la parution de son texte qui déclencha un scandale. L'écrivain fictif de Sarr suivra la trace de cet homme, passant par le Sénégal, la France et l'Argentine, et se frottera aux tragédies engendrée par le colonialisme et la Shoah. Véritable tour de force, la plus secrète mémoire des hommes fait partie de ces livres miroirs qui nous regardent, nous observent, nous révèlent à nous-mêmes, par leur adéquation presque magique avec la vie, a écrit Elsa Pépin entre nos pages. Indice des feux. Antoine Desjardins, BQ. Lauréat du prix du roman d'écologie en 2022, ce recueil à couper le souffle, selon le libraire Philippe Fortin, comprend 7 longues nouvelles qui explorent les angoisses contemporaines, les contre-coups du réchauffement climatique et les fragilités de l'humanité, de cette vie dont il faut prendre soin, de cet avenir incertain qu'il ne faut pas laisser péricliter. Cet empreint d'espoir et de beauté. Il y a notamment un adolescent atteint de leucémie se morfondant à l'hôpital pendant que les uns et les autres s'inquiètent de la pluie qui ne cesse de tomber. Un couple affecté par la disparition des baleines noires. Un homme imbibé d'alcool se retrouvant face à un coyote en ville. Et un homme qui observe son frère prendre un autre chemin, hors des sentiers battus. Aquarium, au pluriel. J.D. Curtness. L'instant même. Après De Vengeance, J.D. Curtness flirte avec le roman d'anticipation grâce à un récit campé dans un avenir proche. Une biologiste québécoise, spécialiste des écosystèmes marins, participe à une expédition dans l'Arctique rassemblant des collègues scientifiques de la planète. Pendant leur périple, un virus élimine presque l'entièreté de l'humanité. Alors que les membres de cet équipage sont isolés, impuissants et angoissés, la narratrice se remémore son enfance, l'histoire de sa famille, sa vie, jusqu'à ce voyage, l'amenant à vivre en dehors du monde. Même si le monde se meurt, le cœur du roman n'est pas cette pandémie. C'est plutôt une histoire de science, d'environnement, d'humanité et de filiation, parsemée d'humour. C'était « Dans la poche », des propositions de lecture d'Alexandra Mignot et José-Anne Paradis, paru le 13 juin 2023 dans la revue « Les libraires ». Pour en lire plus, d'un monde à l'autre, le temps des consciences. Un texte d'André Beauchamp, paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. Les deux auteurs sont bien connus. Nicolas Hulot, né en 1955, a d'abord fait carrière comme journaliste, animateur et réalisateur d'émissions de télévision, notamment Ushu Aïa. Son intérêt pour l'environnement se confirme et fait de lui une figure de proue en ce domaine. En 2017, sous la présidence d'Emmanuel Macron, il devient ministre de la Transition écologique et solidaire, mais démissionne 15 mois plus tard et annonce son retrait de la vie politique. Il se consacrera désormais à la cause écologique. Ses propos sur l'écologie, souvent colorés et anecdotiques, sont toujours pertinents. Frédéric Lenoir, né en 1962, est également un personnage très médiatisé. On le présente comme sociologue, philosophe, écrivain, journaliste et conférencier. De 2004 à 2013, il dirige la revue « Le monde des religions ». Auteur à succès, vulgarisateur des grands philosophes, Frédéric Lenoir s'intéresse beaucoup à la spiritualité, au bonheur, au bien-être, à la méditation et à l'environnement. Le livre « D'un monde à l'autre » est la transcription révisée de conversations qu'ont tenues Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir pendant plus de 2 ans. Julie Klotz a fait la transcription des propos. Le résultat donne un livre éclairant, facile à lire, où sont abordés les principaux défis de notre temps. Ce n'est pas révolutionnaire, mais stimulant et instructif. Frédéric Lenoir en profite pour déployer son savoir philosophique et Nicolas Hulot rappelle ses aventures et sa conviction écologique. Le sous-titre, « Le temps des consciences », est assez exact. L'échange porte sur 9 thèmes. Quel progrès? Tout est question de désir. Le règne de l'argent. Les limites du politique. De l'intérêt individuel au bien commun. Mirage du virtuel, éloge du réel. Du toujours plus au mieux-être. Concilier l'unité et la diversité. Donner du sens. De fil en aiguille, les auteurs parlent d'à peu près tout, de l'environnement, du capitalisme exacerbé, du bonheur, de la beauté, des valeurs à promouvoir, de la laïcité. 3 chapitres m'ont particulièrement intéressée. Le chapitre 3 porte sur le règne de l'argent et la dérive folle du désir de posséder et de consommer qui engendre des impacts sur l'environnement d'une part et sur la société d'autre part. Le chapitre 4, qui traite des limites de la politique, est remarquable. Il fait presque 100 pages et montre bien comment le ministre de l'Environnement, dans le cas de Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, est au fond, par le jeu des forces politiques, le pantin de ses collègues et le faire-valoir d'innombrables concessions. J'ai également apprécié le chapitre 6, celui-là le plus court du livre, sur la tension entre le virtuel et le réel, thème incontournable pour les jeunes d'aujourd'hui. Pour les personnes impliquées dans l'éducation relative à l'environnement, les points d'ancrage sont nombreux, soit sur le plan proprement écologique, avec les réflexions sur l'argent, le rapport à l'animal, le virtuel, l'agriculture, ou des extraits pourraient servir de point de départ à des échanges, soit sur le plan fondamental des motivations et des valeurs. La question du sens et de l'éthique est constamment évoquée. La technologie a bouleversé notre rapport au monde. Ce changement extrêmement important affecte nos modes de vie et de pensée, alors que les grands récits religieux qui ont structuré nos civilisations s'effondrent. Ces bouleversements conduisent à une révolution des consciences. Lenoir. Frédéric Lenoir insiste à plusieurs reprises sur l'opportunité d'ateliers de philo pour les enfants. Il raconte un événement délicieux. Lors d'un atelier de philo que j'ai animé 15 jours après les attentats du Bataclan avec des enfants parisiens, ellipse, j'ai été bouleversée par leur réaction. Je leur avais posé cette question. C'est quoi réussir sa vie? Le bonheur leur semblait un bon critère d'une vie réussie, jusqu'à ce qu'un enfant dise « Je ne suis pas d'accord avec vous, car les terroristes qui ont tué des gens sont heureux de l'avoir fait à cause de leurs croyances. Je ne peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Pour moi, réussir sa vie, c'est être heureux, sans avoir fait de mal aux autres, en les ayant respectés. » Il a convaincu toute la classe. Ellipse. Je me suis alors tournée vers ce petit garçon qui a introduit cette notion de vie bonne. Tu vois, il y a un penseur qui a vécu il y a 2500 ans, du nom de Socrate, et qui a dit la même chose que toi. Ce à quoi il m'a répondu « Je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. » sur les valeurs à promouvoir. Hulot et Lenoir s'entendent sur la beauté, la solidarité incluant la compassion, la fraternité, la liberté, le pardon. Le récit se termine par la narration de deux rencontres émouvantes, l'une de Hulot avec Nelson Mandela et une autre de Lenoir avec le Dalaï Lama. Au bilan, il s'agit d'un livre très axé sur l'urgence de modifier les consciences, éclairant sur la crise écologique, qui insiste sur la nécessité de changer radicalement nos façons de vivre et de penser. Nous essayons de modifier nos habitudes de pensée et nos modes de vie pour participer à l'édification d'une nouvelle civilisation, fondée sur le respect d'autrui et de la nature. Comme beaucoup, nous rêvons d'un monde meilleur et nous refusons de baisser les bras, malgré la puissance des lobbies économiques et le manque de volonté politique. Il n'y a aucune fatalité. Nous pouvons être les acteurs du changement vers cet autre monde. C'était, pour en lire plus, d'un monde à l'autre, le temps des consciences, un texte d'André Beauchamp, paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.